Bienvenue sur les interviews podcast du site unmondelibre.org. Le site pour la défense des droits individuels, de la liberté économique et de la paix. Nous accueillons aujourd'hui Valentin Petkanchin, économiste qui s'est spécialisé sur les problèmes de concurrence et de politique de la concurrence et qui répondra aujourd'hui à des questions que beaucoup d'entre nous se posent en matière de concurrence et qui illustrera ses réponses avec l'analyse du cas de Microsoft. Monsieur Petkanchin, bonjour. Une première question, n'est-il pas vrai que les consommateurs ne disposent pas d'un choix authentique car l'entreprise dominante a exercé une coercition telle qu'il n'existe pas de revendeur significatif offrant des produits concurrents? En effet, n'est-il pas difficile, par exemple, de trouver des revendeurs importants offrant régulièrement un système d'exploitation autre que Windows?
Écoutez, même si environ 90% des ordinateurs dans le monde étaient équipés de Windows, et c'est le chiffre qu'on avance généralement, ce qui compte en matière de concurrence, ce ne sont pas les parts de marché. Ce qui compte, c'est de savoir s'il n'existe pas une interdiction légale empêchant les revendeurs d'offrir des systèmes d'exploitation concurrents. Or, si la majorité des revendeurs offrent des ordinateurs équipés de Windows, en absence d'une telle interdiction, c'est parce qu'après avoir pris en considération tous les facteurs, y compris l'innovation, ils anticipent que c'est ce qui répond le mieux aux souhaits des consommateurs. C'est parce que les offres faites par les revendeurs correspondent généralement aux besoins des consommateurs que certains d'entre eux gagnent des parts de marché et deviennent des revendeurs importants, et non l'inverse. En effet, si les consommateurs ne sont plus satisfaits, ils n'hésiteront pas à se tourner vers d'autres revendeurs, établis ou nouveaux, qui fourniraient des systèmes d'exploitation plus innovants et ou moins chers que Windows.
Les entreprises dominantes comme Microsoft n'abusent-elles pas de leur domination dans une niche afin d'attaquer et de tuer la concurrence dans d'autres niches du marché?
Le fait qu'une entreprise attaque d'autres niches, même si cela peut constituer une menace de perte de part de marché pour les concurrents qui y sont déjà établis, y accroît en réalité la pression concurrentielle au lieu de la diminuer. Une telle entrée se fait par des offres plus alléchantes et des prix plus bas, ce qui est au bénéfice des consommateurs. C'est à ces derniers de décider si le fait que des firmes s'attaquent à de nouvelles niches les sert ou pas. Les consommateurs comparent, globalement, les produits déjà existants et ceux offerts par les nouveaux concurrents. Le fait que ceux-ci soient déjà établis dans une autre niche du marché n'est pas pertinent. Qu'une entreprise soit déjà performante, comme les Microsoft, dans un autre secteur de l'économie ou pas, il ne faut pas lui interdire d'entrer dans la niche de son choix.
Le marché des logiciels n'est-il pas anticoncurrentiel, puisque les consommateurs n'ont pas la possibilité d'acheter des PC sans devoir payer le coût de Windows? Ne devrait-il pas avoir la possibilité d'obtenir des revendeurs qu'ils fournissent justement le système Linux ou tout autre système d'exploitation préinstallé?
Chaque fois quand une entreprise met un produit sur le marché et le commercialise, cela entraîne inévitablement des coûts divers. Cela consomme des ressources en termes de temps, de publicité, d'espace de stockage, d'espace de vente dans les magasins, de main-d'œuvre, etc., etc. Le fait que toutes les offres possibles et imaginables ne soient pas disponibles sur le marché, précisément parce qu'il n'existe pas une demande potentielle et suffisante pour ces produits, ne signifie nullement que c'est un marché anticoncurrentiel. Voyons, ce n'est pas parce qu'un consommateur pourrait trouver difficile d'acheter une nouvelle Toyota sans moteur ou sans frein que la concurrence entre fabricants de voitures s'en trouverait quelque peu diminuée. Cela explique que quand la Commission européenne a imposé à Microsoft la vente obligatoire de son système d'exploitation sans le logiciel multimédia Media Player, cela s'est soldé par un échec commercial et un véritable gaspillage de ressources. Il y a une solution marchande pour tous ceux et celles convaincu que les consommateurs devraient être capables de choisir n'importe quel PC sans devoir payer le coût de Windows. Conformément à leurs convictions, elles devraient tout simplement créer leur entreprise pour satisfaire précisément cette demande, tout en réalisant un profit, si jamais leur intuition était bonne, au lieu de demander des réglementations supplémentaires auprès de la Commission européenne.
Pour conclure, quel est selon vous le défaut majeur des politiques de concurrence aujourd'hui ?
À mon avis, il y a deux défauts majeurs. Le premier, c'est que la politique de concurrence se base sur une vision de la concurrence en termes statiques, une vision qui a été reléguée bien au second plan en analyse économique. On voit la concurrence plutôt comme un processus de rivalité dynamique où des entrepreneurs prennent des risques, innovent, mettent sur le marché des nouveaux produits pour gagner des parts de marché et pour mieux satisfaire les consommateurs. Et dans ce cas-là, la concurrence se définit avant tout par une absence de barrière légale d'entrée dans un secteur ou dans un sous-secteur, plutôt que par un nombre élevé de producteurs dans le secteur, ou par l'absence d'une entreprise qui détiendrait la plupart des parts de marché, et ainsi de suite. Donc le fait de se focaliser avec les politiques de concurrence aujourd'hui sur les parts de marché et sur l'existence ou pas d'une position dominante passe complètement à côté à tous ces phénomènes d'innovation qui font que les entreprises qui ont le plus de succès, qui sont plébiscitées le plus par les consommateurs, risquent de se retrouver sous les sanctions de cette politique. L'autre défaut majeur, qui est finalement lié au premier, c'est que la politique de concurrence introduit une grande dose d'incertitude supplémentaire dans la vie économique et dans la vie des affaires. C'est une source, en fait, d'arbitraire. Pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter une blague qu'on racontait concernant l'arbitraire qui existait dans les pays communistes, dans les pays soviétiques. Donc la voici. On disait à l'époque que si vous arriviez à votre poste de travail en retard, vous seriez puni de sabotage du plan établi par le parti. Évidemment, c'est grave. Si vous arriviez plus tôt, vous seriez mis en examen pour espionnage. Encore plus grave. Mais si jamais vous arriviez à l'heure, vous étiez loin d'être tiré d'affaire, quand vous serez vite soupçonné d'avoir une montre occidentale. Et là, haute trahison envers le régime et toute sanction restait imaginable. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, et c'est mon point à cet égard, toute entreprise qui rencontre du succès et qui est plébiscitée par les consommateurs sur le marché peut être victime d'un arbitraire du même ordre. Elle peut être poursuivie avec des interdictions et des sanctions gravissimes à l'appui sous des chefs d'accusation relevant du non-respect de la réglementation antitrust. Si elle pratique des prix trop élevés par rapport à ses concurrents ou augmente ses prix, elle sera accusée d'exploiter indûment les consommateurs. Si elle pratique des prix trop bas ou les baisse, elle sera encore plus vite accusée d'exclure ses concurrents et de vouloir tuer la concurrence et devenir un monopole. Enfin, si jamais les prix sont identiques que ses concurrents restent stables, on la soupçonnera d'avoir conclu des ententes avec eux ou de faire partie d'une collusion ou d'un cartel. Comme notre ouvrier sous le communisme, elle n'est jamais donc à l'abri d'une poursuite des bureaucrates antitrust.
Je me permets de rappeler que vous êtes d'origine bulgare et que vous avez donc une connaissance de première main des soi-disant bienfaits du communisme. Merci, monsieur Petkanchin. J'espère que ces éclaircissements auront permis à nos auditeurs de mieux comprendre la concurrence et les processus de concurrence. Je vous rappelle que vous pouvez trouver d'autres podcasts dans les archives du site.